On vient d'écouter You Gonna Take the Power Back de Rage Against the Machine, qui était une chanson qui était en live, donc en temps réel. Pour continuer, on va peut-être. Je vais faire une lecture, comme j'ai dit en début d'émission, d'une lettre qui a été écrite par Émile Henry. Émile Henry, c'est un anarchiste français qui a, en réponse à des arrests aux lois scélérates, à quelque part, lois scélérates qui ont été une série de lois passées pour permettre aux policiers d'arrêter abusivement et arbitrairement la plupart des anarchistes, il a commis un attentat dans un café. Un attentat qui était quand même assez. Qui n'était pas nécessaire, selon moi, puisque c'était carrément dans un café, sans aucune raison, qui a atteint mortellement une seule personne seulement. Heureusement, dis-je. Donc, Émile Henry a été jugé en cour et condamné. Seulement, Émile Henry, c'était, si on veut, un travailleur impeccable, un étudiant modèle, si on veut. Puis on n'a jamais vraiment compris ce qui l'a poussé à le faire, sauf quand lui-même l'expliquait. Il était fondamentalement contre toute forme d'autorité et illégitime, il faut le dire. Donc, la lettre que je vais lire ici, c'est une lettre qu'il a écrite quand il était en prison et qui a été adressée au directeur de la conciergerie, dans le fond, qui est le responsable de l'établissement dans lequel il se trouvait. Puis, la lettre se veut un plaidoyer pour l'idéal anarchiste, si on veut. Expliquer à quelqu'un qui devait en avoir entendu parler par le biais des journaux ou de la police, donc, de manière négative. Donc, je vais vous faire une lecture. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc, Monsieur le directeur, au cours de la visite que vous m'avez faite dans ma cellule le dimanche 18 courant, vous avez eu avec moi une discussion, d'ailleurs toute amicale, sur les idées anarchistes. Vous avez été fort étonné, m'avez-vous dit, de connaître nos théories sous un aspect nouveau pour vous. Et vous m'avez demandé de vous résumer par écrit nos conversations afin de bien connaître ce que veulent les compagnons anarchistes. Il vous sera facile de comprendre, monsieur, que ce n'est pas en quelques pages que l'on peut développer une théorie qui analyse toutes les manifestations de la vie sociale actuelle, les étudie comme un docteur ausculte un corps malade, les condamne parce qu'elles sont contraires au bonheur de l'humanité et, en leur lieu de place, échafaude d'une vie toute nouvelle basée sur des principes entièrement antagonistes de ceux sur lesquels est bâtie la vieille société. D'ailleurs, d'autres comme moi ont déjà fait ce que vous m'avez demandé de faire, les Kropotkin, les reclus, Sébastien Faure, ont exposé leurs idées et ont poussé leur développement aussi loin que possible. Et cependant, gardez-vous bien de croire que l'anarchie est un dogme, une doctrine inattaquable, indiscutable, vénérée par ses adeptes à l'égal du Coran pour les musulmans. Non, la liberté absolue que nous revendiquons développe sans cesse nos idées, les élève vers de nouveaux horizons au gré des cerveaux et des divers individus et les rejette hors des cadres étroits de toute réglementation et de toute codification. Nous ne sommes pas des croyants. Nous ne nous inclinons ni devant Reclus ni devant Kropotkin. Nous discutons leurs idées. Nous les acceptons quand elles se développent dans nos cerveaux des impressions sympathiques, mais nous les repoussons quand elles ne font rien vibrer en nous. Nous sommes loin de posséder l'aveugle foi des collectivistes qui croient en une chose parce que Guesde a dit qu'il fallait y croire et qui ont un catéchisme dont serait sacrilège de discuter les paragraphes. Ceci bien établi, je vais développer brièvement et rapidement ce que j'entends, moi, par l'anarchie, sans pour que cela engage d'autres compagnons qui, par certains points, peuvent avoir des vues différentes aux miennes. Vous ne discuterez pas ce qu'aujourd'hui le système social est mauvais. Et la preuve, c'est que chacun en souffre. Depuis le malheureux errant sans pain et sans gîte qui connaît le faim à l'état constant, jusqu'au milliardaire qui craint toujours une révolte de meurtre de faim venant troubler sa digestion, toute l'humanité éprouve des angoisses. Eh bien, sur quelle base repose la société bourgeoise? Abstraction en fait des principes de famille, de patrie et de religion qui n'en sont que des corollaires. Nous pouvons affirmer que deux pierres de voûte, les deux principes fondamentaux de l'état actuel, font l'autorité et la propriété. Je ne veux pas m'étendre davantage sur ce sujet. Il me serait facile de démontrer que tous les maux dont nous souffrons découlent de la propriété et de l'autorité. La misère, le vol, le crime, la prostitution légale, les révolutions ne sont que des résultantes de ces deux principes. Donc, les deux bases de la société étant mauvaises, il n'y a donc pas à hésiter. Il faut essayer d'un tas de palliatifs, comme le socialisme, qui ne servent qu'à déplacer le mal. Il faut détruire les deux germes vicieux et les extirper de la vie sociale. C'est pourquoi, les anarchistes, nous voulons remplacer la propriété individuelle par le communisme et l'autorité par la liberté. Donc, plus de titres de possession ni de titres de domination, égalité absolue. Quand nous disons égalité absolue, nous ne prétendons pas que tous les hommes auront un même cerveau, une même organisation physique. Nous savons fort bien que toujours il y aura de plus grandes diversités entre les aptitudes cérébrales et corporelles. C'est justement cette variété de capacités qui réalisera la production de tout ce qui est nécessaire à l'humanité et sur elle aussi que nous comptons pour entretenir l'émulation dans une société anarchiste. Il y aura des ingénieurs, des terrassiers, cela est évident, mais sans que l'un ait aucune supériorité sur l'autre, car le travail de l'ingénieur ne servirait de rien sans le concours du terrassier, et vice-versa. Chacun étant libre de choisir le métier qu'il exercera, il n'aura plus des êtres obéissants sans contrainte aux penchants que la nature a placés en eux, garantie de bonne production. Et si une question se pose, il est paresseux, chacun voudra-t-il travailler? Notre réponse est oui. Chacun voudra travailler, et voici pourquoi. Aujourd'hui, la moyenne de la journée de travail est de 10 heures. Beaucoup d'ouvriers sont occupés à des travaux absolument inutiles à la société, en particulier aux armements militaires de terre et de mer. Beaucoup aussi sont frappés par le chômage. Ajoutez à cela un nombre considérable d'hommes valides ne produisant rien, soldats, prêtres, policiers, magistrats, fonctionnaires, etc. On peut donc affirmer, sans être taxé d'exagération, que sur 100 individus capables de produire un travail quelconque, 50 seulement fournissent un effort vraiment utile à la société. Ce sont ces 50 qui produisent toute la richesse sociale. D'où la déduction que si tout le monde travaillait la journée de travail au lieu d'être de 10 heures, descendait à 5 heures seulement. Considérons en outre que, dans l'état actuel, le total des produits manufacturés est de 4 fois plus considérable et le total des produits agricoles 3 fois plus considérable que la somme nécessaire aux besoins de l'humanité. C'est-à-dire qu'une humanité 3 fois plus nombreuse serait vêtue, logée, chauffée, nourrie. En un mot, aurait la satisfaction de tous ses besoins si le gaspillage et d'autres multiples causes ne venaient détruire cette surproduction. De ce qui précède, nous pouvons en tirer la conclusion suivante. Une société où chacun collaborerait au travail commun et qui se contenterait d'une production ne dépassant pas énormément sa consommation, l'excès de la première sur la seconde devant constituer une petite réserve, n'aurait à demander à chacun de ses membres valides qu'un effort de 2 à 3 heures, peut-être moins. Là, ici, je m'arrête pour dire que Bertrand Russell, un célèbre épistémologue britannique, a affirmé la même chose dans son livre qui s'appelle « L'éloge de l'oisiveté ». Bon, je continue. Qui donc, alors, refuserait de donner une petite quantité de travail? Qui voudrait vivre avec cette honnête et cette honte d'être méprisé de tous et considéré comme un parasite? La propriété et l'autorité marchent toujours de pair, se soutenant l'un et l'autre, pour toute l'humanité esclave. Qu'est-ce que le droit de propriété? Est-ce un droit naturel? Est-il légitime que l'un mange tandis que l'autre jeûne? Non, la nature, en nous créant, nous fit des organismes similaires, et un estomac de manœuvre exige les mêmes satisfactions qu'un estomac de financier. Et cependant, aujourd'hui, une classe a tout accaparé, volant à l'autre classe non seulement le pain du corps, mais aussi le pain de l'esprit. Oui, dans un siècle que l'on appelle de progrès de science, n'est-il pas douloureux de penser que des millions d'intelligences avides de savoir se trouvent dans l'impossibilité de s'épanouir, que d'enfants de peuples qui seraient peut-être devenus des hommes de haute valeur utiles à l'humanité ne seront jamais autre chose que les quelques notions indispensables que leur inculque l'école primaire. La propriété, voilà l'ennemi du bonheur humain, car elle crée l'inégalité et par la suite la haine, l'envie, la révolte sanglante. L'autorité, elle, n'est que la sanction de la propriété, elle vient mettre la force au service de sa spoliation. Eh bien, le travail étant un besoin naturel, convenez avec moi, monsieur, que nul ne se dérobera à la demande d'un effort aussi minime que celui dont nous avons parlé plus haut. Le travail est un besoin si naturel que l'histoire nous montre des États s'arrachant avec bonheur au souci de la politique pour travailler comme de simples ouvriers. Pour n'en citer que deux exemples bien connus, Louis XVI faisait de la serrurerie. De nos jours, Gladstone, de Grey Tolman, profite de ses vacances pour abattre lui-même quelques-uns des chênes de sa forêt, comme un vulgaire bûcheron. Voyez donc bien, monsieur, qu'il ne nous serait nécessaire de recourir à aucune loi pour éviter les paresseux. Si, par extraordinaire, quelqu'un voulait cependant refuser son concours à ses frères, il serait toujours moins coûteux de nourrir ce malheureux qui ne peut être qu'un malade que d'entretenir des législateurs, des magistrats, des policiers, des gardes-chiourmes pour le mater. Beaucoup d'autres questions se posent, mais elles sont d'un ordre secondaire. L'important était d'établir que la suppression de la propriété, la prise au tas, n'amènerait pas un arrêt de la production par suite du développement de la paresse et que la société anarchiste saurait nourrir et se satisfaire en tous ses besoins. Toutes les autres objections qu'on pourrait soulever seront facilement réfutées en s'inspirant de cette idée qu'un milieu anarchiste développera dans chacune de ses membres la solidarité et l'amour de ses semblables, car l'homme saurait qu'en travaillant pour les autres, il travaille en lui, même temps pour lui. Une objection qui paraît plus fondée est celle-ci. Si aucune autorité n'existe plus, n'y a-t-il pas la peur du gendarme pour arrêter le bras des criminels? Ne risquons-nous pas de voir les délits et les crimes se multiplier par une proportion effrayante? La réponse est facile. Nous pouvons classer les crimes commis aujourd'hui en deux catégories principales, les crimes d'intérêt et les crimes passionnels. Les premiers disparaîtront d'eux-mêmes car il n'y aura plus matière à ces délits, atteinte à la propriété dans un milieu qui a supprimé la propriété. Quant au second, aucune législation ne peut les empêcher, bien loin de là, la loi actuelle qui acquitte le mari assassinant la femme adultère ne fait que favoriser la fréquence de ces crimes. Au contraire, un milieu anarchiste élèvera le niveau moral de l'humanité. L'homme comprendra qu'il n'a aucun droit sur une femme, se donnant à une autre que lui, puisque cette femme ne fait qu'obéir à sa nature. Par conséquent, les crimes dans la future société deviendront de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Je vais vous résumer, monsieur, mon idéal d'une société anarchiste. Plus d'autorité, bien plus contraire au bonheur de l'humanité que les quelques excès qui pourraient se produire au début d'une société libre. Au lieu de l'organisation autoritaire actuelle, groupement des individus par sympathie et affinité, sans loi et sans chef, plus de propriété individuelle, mise en commun du produit, des travaux de chacun selon ses besoins, consommation de chacun selon ses besoins, c'est-à-dire à son gré. Plus de famille, égoïste et bourgeoise, faisant de l'homme la propriété de la femme, et de la femme la propriété de l'homme, exigeant des deux êtres qui se sont aimés un moment d'être liés l'un à l'autre jusqu'à la fin de leur jour. La nature est capricieuse, elle demande toujours de nouvelles sensations. Elle veut l'amour libre, c'est pourquoi nous voulons l'union libre. Plus de patrie, plus de haine entre frères, jetant les uns contre les autres des hommes qui ne sont même jamais vus. Remplacement de l'attachement étroit et mesquin du chauvin à sa patrie par l'amour large et fécond de l'humanité tout entière, sans distinction de race ni de couleur. Plus de religion forgée par des prêtres pour abattardir les masses, leur donner l'espoir d'une vie meilleure alors qu'eux-mêmes jouiront de la vie terrestre. Au contraire, développement continu des sciences, mises à la portée de chaque être qui se sentira attiré vers leurs études, amenant peu à peu tous les hommes à la conscience du matérialisme. Étude particulière des phénomènes hypnotiques que la science commence aujourd'hui à constater, afin de démasquer les charlatans qui présentent aux ignorants sous un jour merveilleux et surnaturel des faits d'ordre purement physique. En un mot, plus d'entrave aucune au libre développement de la nature humaine, libre éclosion de toutes les facultés physiques, cérébrales et mentales. Qu'une société ayant de telles bases arrive du premier jour à l'harmonie parfaite, je ne suis pas assez optimiste pour l'espérer, mais j'ai la profonde conviction que deux ou trois générations suffiront pour arracher l'homme à l'influence de la civilisation artificielle qu'il subit aujourd'hui, et pour le ramener à l'état naturel, qui est l'état de bonté et d'amour. Mais pour faire triompher cet idéal, pour asseoir une société anarchiste sur des bases solides, il faut commencer par le travail de destruction. Il faut jeter et battre la vieille édifice vermoulue. C'est ce que nous faisons. La bourgeoisie prétend que nous n'arriverons jamais à notre but. L'avenir est un avenir bien proche. Le lui apprendra. Vive l'anarchie. Donc, c'était la lecture que je viens de faire de la lettre qu'a écrit Émile Henry. Émile Henry qui a d'ailleurs passé à l'acte quand il a fait un attentat dans un café. Il avait choisi une mauvaise cible, puis c'était un mauvais moment, j'imagine. Mais bon, il a écrit des bons textes, puis je crois aussi que le compte-rendu de son procès ne peut être qu'élogieux pour la personne, puisqu'il savait très bien s'exprimer.
Ravachol, c'est-tu un synonyme pour Émile Henry?
Non, Ravachol, c'était un autre anarchiste qui lui aussi a fait des attentats. C'est la même époque. Je crois que Ravachol, c'est l'année d'avant ou sinon un peu plus tôt, bref, à l'origine même des lois scélérates qui ont été passées en France pour arrêter arbitrairement la plupart des anarchistes. Ouais. Donc, on va peut-être aller faire une pause musicale. On va aller écouter une chanson de Paul-Émile Bazard.
Kyoto.
Kyoto. Donc,
sur les ondes de CFLX 95.5 à l'émission La Rage du Peuple.